quand on essaie de réfléchir en profondeur, en laissant de côté toutes les actualités qui sont à la surface des choses, mais quand on essaie vraiment de se demander qu'est-ce qui change le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de changer le monde en profondeur, en réalité, il y a deux choses. Vous allez voir que ce sont ces deux choses qui vraiment sont au cœur de ce dont on est en train de parler ce soir. La première chose, c'est la mondialisation. Alors la mondialisation, vous pouvez vous dire, oui, mais ça fait très longtemps qu'on en parle de la mondialisation, c'est vrai. Mais la mondialisation, elle change de nature. Pendant très longtemps, depuis l'Antiquité en réalité, la mondialisation, et on en sait quelque chose à Marseille, ça a été une mondialisation de l'échange des biens. On échangeait de plus en plus de biens industriels, essentiellement. Depuis quelques années, la mondialisation, c'est la mondialisation des entreprises elles-mêmes, c'est la mondialisation de la chaîne de valeur des entreprises. C'est le fait que beaucoup d'entreprises, de plus en plus d'entreprises, sont des entreprises qui elles-mêmes deviennent mondiales. Et ça, ça change la nature des politiques publiques, des politiques économiques que l'on doit mener pour connaître, pour attirer à soi la prospérité. Je vais y venir dans un instant. Premier sujet, la mondialisation. Deuxième sujet, bien évidemment, en effet, l'innovation technologique, cette immense vague de mutations, cette immense vague de destruction créatrice qui est la plus importante en réalité depuis le 19e siècle, hein, depuis ce que les historiens appellent la première révolution industrielle, et qui a deux directions. Vous voyez toujours deux secteurs dans lesquels se concentre l'innovation. Je dis toujours parce que c'est vrai dans la vague d'innovation qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était vrai aussi au XIXe siècle, c'était vrai au moment de la Renaissance, c'était vrai au moment du siècle de Périclès sous l'Antiquité. Deux directions, deux aspects, deux dimensions. La dimension du temps et la dimension de l'espace. La dimension du temps, ça veut dire que beaucoup de ces innovations ont pour objectif de nous faire gagner du temps dans notre vie. Alors gagner du temps dans notre vie, ça peut être par exemple en se déplaçant plus vite, de façon plus fluide, avec des moyens de transport moins polluants, entre des métropoles ou à l'intérieur de métropoles comme Marseille. Et vous voyez bien que la question de la Smart City est au cœur de ce type de changement. Elle est au cœur de cette dimension de la mutation telle que nous la vivons. Dimension de l'espace, deuxième dimension après celle du temps, la dimension de l'espace pour que on puisse aller toujours plus loin, pour que nos marchandises puissent être exportées beaucoup plus loin. Et c'est la raison pour laquelle la notion de smart port est aussi si importante. Smart city, gagner du temps, se déplacer plus facilement, smart port, aller plus loin, se déplacer plus loin, emmener nos marchandises plus loin. Question de la santé, pour vivre plus longtemps, pour avoir une espérance de vie qui progresse, mais une espérance de vie en bonne santé qui progresse. On revient à la dimension du temps. La question des transports, la question de la circulation automobile à l'intérieur des villes, faire en sorte qu'on se déplace mieux, et on revient à la dimension de l'espace. Vous voyez, le temps, l'espace, toujours. Et quand on réfléchit à l'avenir d'une ville comme Marseille et d'un pays comme la France, je pense que de plus en plus, on doit réfléchir en termes d'attractivité. Moins de compétitivité, mais plus d'attractivité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Cet après-midi, avec un certain nombre d'entre vous, j'ai vu défiler une dizaine d'entreprises, une dizaine de start-up. Franchement, je ne me suis pas ennuyé une seconde, et pourtant, je m'ennuie très vite. Et en plein hiver comme ça, on est tous un peu fatigués, et donc l'après-midi, j'ai tendance à piquer du nez. Très honnêtement, je ne me suis pas ennuyé une seconde, parce qu'on a fait face à une diversité d'opérateurs, une diversité d'acteurs, mais il n'y a qu'en France qu'on voit autant de start-up. Il n'y a qu'en France qu'on voit des start-up dans tous les secteurs. Il n'y a qu'en France qu'on voit des jeunes qui ont des profils assez étonnants. Souvent d'ailleurs déjà des profils assez riches, qui ont étudié dans une école de commerce, qui sont devenus ingénieurs, qui sont partis en Australie, qui sont revenus en France. Ça, c'est la richesse de la France. Ce qu'on appelle techniquement l'amorçage. On est très bon. Ça, c'était pour se faire plaisir. Maintenant, je vais parler de ce qui fâche. Parce que j'étais ravi de ce que j'ai vu cet après-midi. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup inquiété. Est-ce que dans 5 ans, ces start-up, notamment celles qu'on va récompenser, est-ce qu'elles seront à Marseille et en France ? J'en sais rien. Et ça m'embêterait. En tant que consommateur, je m'en moque complètement. Hein. C'est absolument. On est dans un monde mondialisé en tant que consommateur. Qu'elles soient à Marseille, à Istanbul ou dans la Silicon Valley, ou Istanbul, je ne sais pas pourquoi je prends Tasséguan, parce que ce n'est pas un des clusters les plus dynamiques, mais on va prendre Singapour ou l'Est de la Chine. En tant que consommateur, c'est complètement indifférent pour moi. Mais en tant que citoyen, ça n'est pas indifférent. Notre pays et nos métropoles doivent devenir attractives à deux termes. pour qu'on puisse garder ces entreprises. En termes financiers et en termes de capital humain, nous avons besoin d'argent et nous avons besoin de gens intelligents. Je suis désolé de parler un langage qui n'est pas forcément politiquement correct, mais l'amitié, c'est de se dire les choses. Alors, je vous dis les choses. La France et Marseille ont besoin de capital, capital financier et capital intellectuel. Capital financier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces entreprises qu'on va récompenser dans quelques instants, elles arrivent à trouver de l'argent pour lancer leurs projets. On va peut-être les aider un peu. Mais la difficulté, c'est quand elles connaîtront un vrai succès, qu'elles devront industrialiser leurs produits et qu'elles auront besoin non pas de 500 000 euros ou d'1 million d'euros, mais qu'elles auront besoin de 500 millions d'euros. Vous avez aujourd'hui dans la Silicon Valley et en Chine des entreprises qui sont en train de lever 1 milliard d'euros en capital investissement. L'Europe n'est pas équipée pour ça. Et le suicide de l'Europe et le suicide de la France, il est là. Il n'est pas dans le grand remplacement ou je ne sais quoi, comme l'expliquent certains de mes collègues. Il est très exactement là. Il est dans le fait que nous sommes en train de laisser émerger un duopole technologique américano-chinois. Et je vous le dis comme je le pense, si nous continuons comme ça, la France sortira de l'histoire. Alors, on peut vivre très heureux dans un pays pauvre. Mais toutes les enquêtes d'économie du bonheur montrent qu'en moyenne, il est plus facile de s'épanouir en Norvège qu'au Zimbabwe. Et donc, je pense que nous devons réfléchir très sérieusement à ça, parce que ça se joue en ce moment. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont la gentillesse de me suivre savent que j'ai soutenu la réforme fiscale du gouvernement, non pas parce qu'elle privilégie telle ou telle partie de la population, mais tout simplement parce que nous avons besoin d'avoir une fiscalité sur le capital qui soit attractive. Sinon, ces start-up, elles iront ailleurs, pas demain, mais dans 5 ans. Parce que le capital, elles ne le trouveront pas en France. Et quand je dis que nous avons besoin d'une fiscalité attractive, nous sommes passés d'une fiscalité qui est une fiscalité insensée à une fiscalité qui est une fiscalité normale dans la moyenne des pays de l'OCDE. Mais nous avons aussi besoin d'attirer les gens intelligents, le capital humain. Et ça, vous, à Marseille, vous êtes vraiment bien placés pour ça. Et vous pouvez vous rendre un grand service à vous, mais vous pouvez aussi rendre un grand service à la France de ce point de vue-là. Parce que Paris ne peut pas être la seule métropole attractive en France, bien évidemment. Et en plus, elle ne l'est pas tant que ça. Et la politique que mène la municipalité de Paris en termes d'attractivité est à certains égards discutable. Et donc, Paris, le Brexit, Trump, Marseille a un coup à jouer, qui est un coup à jouer magnifique. Et vous avez de la chance. On est en train de mettre en place une fiscalité du capital qui devient normale. Ça veut dire qu'on lève cet obstacle. Vous, au niveau municipal et au niveau métropolitain, vous pouvez mettre en place une politique d'urbanisation, une politique de développement durable, une politique d'infrastructure qui fera en sorte que Marseille sera l'une des villes européennes les plus agréables à vivre. Si on arrive à faire ça au niveau national, si on arrive à faire ça au niveau local, toutes ces start-up qu'on a vues cet après-midi, dont on a financé l'amorçage. Souvent, nous avons même financé la formation des jeunes gens qui ont créé ces start-up. Et on va les garder. Et cette économie de l'intelligence artificielle, du numérique, de la robotique, qui est notre avenir, il n'y en a pas d'autre. C'est une révolution industrielle. Tous les secteurs seront impactés par cette mutation. Il n'y aura pas deux économies. Il n'y aura pas de fracture. Il n'y aura plus que cette réalité-là. Et donc, si nous sommes intéressés à la vie de notre pays, vous êtes intéressés à la vie de votre métropole, notre devoir moral, c'est de garder ces start-up et c'est de mener ce type de politique. Mais si on mène ce type de politique, la France va devenir le pays le plus agréable à vivre d'Europe, parce que ce sera agréable et en plus ça fonctionnera bien et ce sera prospère, et Marseille sera la meilleure ville du monde.